Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Guy Perrin, astronome ou astrophysicien ?
Astronome ou astrophysicien, mais astronome de métier et de fonction, mais aussi astrophysicien de métier.
C'est quoi la différence ?
Alors, la différence, elle est, on pourrait dire, historique. Au départ, ils étaient tous astronomes. Quand la décomposition de la lumière, par exemple, en couleurs, est arrivée, on a commencé à faire de la physique à partir de ces observations spectroscopiques. Et donc, on a créé l'astronomie physique, qui est devenue l'astrophysique. Et puis il y a eu une sorte de querelle des anciens et des modernes, et les anciens étaient plutôt astronomes et les modernes plutôt astrophysiciens. Voilà, voilà.
Dans cette série de podcasts, comme tu le sais, je prends un mot de science, et on essaye de le décortiquer ensemble. Et le mot que tu as choisi aujourd'hui, c'est précisément...
Couleur.
Couleur, magnifique. Dis-nous d'abord, qu'est-ce que c'est une couleur ?
Une couleur, c'est relatif à la lumière. Et la lumière, c'est une onde. En tout cas, on peut en avoir une description ondulatoire. Et à cette onde est associée une fréquence, ou une période, ou une longueur d'onde. Et des ondes à différentes longueurs d'onde, ou à différentes fréquences, c'est des ondes à différentes couleurs. Ça, c'est pour des ondes monochromatiques à une seule couleur. On peut faire des ondes polychromatiques et qui définiront d'autres couleurs qui sont composées elles-mêmes d'ondes monochromatiques et donc de couleurs parfaitement pures.
Il y a donc une infinité de couleurs différentes puisqu'il y a une infinité de longueurs d'ondes différentes. Mais en revanche, notre œil n'en capte essentiellement que trois couleurs et leurs combinaisons.
Absolument. Et nous, on est sensible, en gros, du violet jusqu'au rouge.
Ce qui veut dire, en clair, qu'on peut avoir deux lumières totalement différentes et que nous percevons exactement de la même façon.
Quelque part, oui, absolument.
C'est un peu mystérieux.
Oui, c'est un peu mystérieux.
Alors que d'autres animaux, par contre, ont plus de sensibilité que nous aux couleurs.
Oui, oui, oui. On n'a pas la même sensibilité. Il y a des animaux, par exemple, qui voient des couleurs qu'on ne voit pas.
Les papillons, m'a-t-on dit.
Les papillons. Les chats, par exemple, voient le proche infrarouge que nous, on ne voit pas. Par exemple, les télécommandes. Voilà, un chat peut être sensible aux télécommandes. Nous, on n'y est pas.
Que je peux me permettre une petite critique des astronomes.
Bien sûr.
Les astronomes ont cette habitude, en quelque sorte, sont très vendeurs de très très belles images, très surprenantes, qui sont magnifiques et qui plaisent à tout le monde, y compris moi. Et moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est que si on prend les exemples récents du James Webb Telescope, par exemple, qui prend des images essentiellement dans l'infrarouge, tu vas me confirmer, c'est-à-dire qu'en fait, il prend des images que nous ne pouvons pas voir. Et ensuite, il les... Est-ce que j'ai le droit de dire les trafique un peu ?
Oui.
Pour qu'elles rentrent dans notre champ visuel et qu'on puisse... les admirer. Rarement, les astronomes disent « Attention, ces images ne sont pas des réalités. » Tu peux commenter un peu là-dessus ?
Ça dépend ce qu'on appelle astronome et astronome. Ouais. Il y a l'astronome qui fait son travail et qui fait sa publication scientifique. Et puis, il y a l'astronome en lien avec une institution qui doit partager en fait, ce travail avec le grand public.
C'est surtout à ce second type d'astronome que je parlais.
Exactement. Et donc, prenons le cas d'images en infrarouge, nous ne les voyons pas, et si on les représente sur papier, ça ne se voit pas. Il faut bien traduire l'infrarouge en image qu'on voit, voilà, avec du vert, du bleu, etc., du rouge. Et donc, il y a une échelle de couleurs qui traduit, en fait, ce que l'on voit dans une image.
Est-ce que la traduction est la même pour toutes les images ? Est-ce qu'on dit ça va être plus beau si je mets du bleu là ou du rouge
alors
là ?
C'est une question, finalement, c'est une question assez personnelle parce que ça dépend aussi ce que un individu souhaite voir ou comment lui le perçoit le mieux et ça peut définir une traduction aux couleurs qui est propre à l'individu. Oui.
Mais est-ce que vous, astronome, vous avez une table de correspondance entre les longueurs d'onde infrarouge invisibles, donc pour nous, et des longueurs d'onde visibles pour nous, et que vous traduisez comme ça à chaque coup.
Non, il n'y a pas de code couleur.
Il n'y a pas de code couleur. Autrement dit, j'avais un peu de raison de dire qu'il y a un petit peu de la triche, quoi.
Oui, c'est pas de la triche, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui sont plus bleus, il y a des gens qui sont plus rouges. Voilà, il y a des gens qui sont plus noirs et blancs, ou voilà. It's all right.
Dis-moi quelques mots sur Tintin et l'étoile mystérieuse, où on voit cet astronome avec ses spectres. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est exactement ?
Alors, un spectre, c'est la distribution de la lumière en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la fréquence. C'est justement là qu'on est passé de l'astronomie à l'astrophysique, en gros.
Alors, comment ça marche et à quoi ça sert ?
Alors, comment ça marche ? On obtient un spectre, par exemple, en diffusant la lumière avec un prisme. Et donc, on décompose la lumière comme ça. C'est par exemple la pochette de Pink Floyd, Dark Side of the Moon. On voit les couleurs d'arc-en-ciel qui émergent du prisme. Ça permet de décomposer la lumière en longueur d'onde individuelle et donc en couleur individuelle.
On va commencer par dire qu'on peut admirer les Pink Floyd, bien sûr, mais avant tout Newton.
Oui, avant tout Newton.
C'est quand même lui qui a fait cette expérience qui est un grand moment dans l'histoire des sciences.
Absolument,
c'est
absolument.
Magnifique. Continue.
Et donc, de cette étude de la répartition de la lumière en fonction de la longueur d'onde, disons en fonction de la couleur, en fait, on peut en déduire des caractéristiques physiques des objets. On peut en déduire, par exemple, la température d'une étoile, la température d'un milieu, les vitesses d'un objet, des pressions, voilà, des caractéristiques comme ça. On peut même en déduire des valeurs de champ magnétique, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que la lumière et sa décomposition en couleur est extrêmement importante pour les astronomes et pour les astrophysiciens.
On peut déterminer le type d'étoile en regardant la distribution d'énergie par fréquence.
Absolument, absolument. C'est comme ça que s'est faite la classification des étoiles en spectre d'étoiles.
Ça me rappelle cette classification ancienne des étoiles avec cette numérotation très sexiste que tu dois connaître, non ?
Non ? Celle qui donne « Oh, be a fine girl, kiss me ».
Voilà, les plus chaudes sont les O, c'est ça ?
Alors, je te signale que le « Oh, be a fine girl, kiss me », ça donne aussi « Oh, be a fine guy, kiss me ». Ah, ça marche pour les hommes. D'accord. Et pour les femmes.
D'accord. Voilà. Ah, donc, c'est pas aussi sexiste que ce qu'on m'a dit quand j'étais adolescent.
Non, ça l'est plus, pour être honnête.
D'accord.
Ça l'est plus. Voilà.
Alors, le O, c'est les plus chaudes ?
Le O, c'est les plus chaudes, et les étoiles M, c'est les plus froides.
Les plus chaudes sont les plus jaunes.
Les plus chaudes sont même les plus bleues.
Les plus bleues.
Voilà. Et les plus froides sont les plus rouges. C'est exactement l'inverse de la convention de l'eau chaude et de l'eau froide. Pour un astronome, ce qui est chaud est bleu, et ce qui est froid est rouge. Sous la douche, ce qui est chaud est rouge, et ce qui est froid est bleu.
C'est intéressant. C'est intéressant. Here comes the sun. Parle-moi un peu justement du James Webb Télescope et de pourquoi est-ce qu'on a choisi plus les infrarouges que d'autres zones du spectre.
Il y a plusieurs raisons, on peut en donner quelques-unes. Par exemple, on veut aller voir des objets très anciens et comme l'univers est en expansion, les objets très anciens en fait sont très rouges ou les plus rouges, ou sont rougis par l'expansion de l'univers. Plus on va voir loin dans le temps, loin dans le passé, plutôt, plus les objets sont rouges. Donc on a intérêt à avoir un télescope qui voit plutôt vers le rouge. Il y a d'autres raisons scientifiques. Par exemple, quand on veut voir certaines planètes, il est plus commode d'aller les voir autour d'étoiles qui sont des naines, dites naines rouges. Ça sera plus facile de les voir sous certaines conditions. Donc c'est un autre argument. Mais on peut trouver d'autres arguments comme ça.
Peut-être qu'on peut revenir sur l'idée initiale de ce podcast et des mots qui sont mal compris. Est-ce que tu penses que le public général comprend ces choses ? Est-ce que les gens savent qu'une étoile a une couleur ou a des couleurs ou a un spectre et qu'à partir de cette information, on peut déduire des tas de choses ?
Déjà, non pas comprendre, mais constater que les étoiles ont des couleurs, c'est pas si facile que ça si on ne le sait pas. Parce qu'en fait, il se trouve que quand on regarde le ciel, mettons un ciel vraiment pur, par une nuit vraiment noire, sans nuages, etc., et sans pleine lune, par exemple, notre œil, il voit plutôt des choses blanches. Si on voit la voie lactée, on va voir une traînée blanche. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle la voie lactée, d'ailleurs. On sait tous que si on fait une photo, couleur, on verra qu'il y a des couleurs dans la voie lactée. Voilà. Ça, c'est dû à notre perception, c'est dû au fait que Au fond de notre œil, il y a des cônes et des bâtonnets. Les cônes voient les couleurs, les bâtonnets voient en noir et blanc, voilà, pour faire simple. Et donc quand il y a peu de luminosité, c'est les bâtonnets qui rentrent en jeu et on va avoir plutôt du noir et du blanc ou des nuances de gris. Et donc les étoiles, en général, on les voit, bien qu'elles aient une couleur, on les voit blanches parce qu'elles sont en général faibles, voilà, pour notre œil. Mais certaines, parmi les plus brillantes, ont des couleurs. On voit par exemple, si on regarde une des étoiles les plus brillantes du ciel, qui est Bethelgeuse, on verra que Bethelgeuse est plutôt, on la verra, moi je la vois orangée personnellement. Je sais qu'elle est rouge, mais je la vois orangée. Rigel, qui est opposée dans la constellation d'Orion, elle est une étoile O, Bethelgeuse est une étoile M, et bien Rigel, elle, on la verra bleue. Voilà, donc on voit ses couleurs si on le sait.
Quel conseil tu me donnerais si je montrais à un adolescent ou à un adulte telle étoile est en couleur, bleue ou rouge? Est-ce qu'il me faut un appareil spécial ou bien est-ce qu'on peut voir ça à l'œil nu si on le sait?
Alors pour ces étoiles-là, ça se voit à l'œil nu. Voilà. Les étoiles les plus grosses et les plus proches, donc qui apparaissent les plus brillantes, en fait, on peut voir leur couleur.
Sinon, avec des jumelles, on voit quelque chose?
Avec des jumelles, oui.
On voit les couleurs?
Ah oui, ça change tout parce que la taille de la pupille est beaucoup plus grosse que celle de la taille de la pupille de l'œil qui fait quelques millimètres, alors que la pupille d'une jumelle, le diamètre de la pupille de l'œil d'entrée, ça va être plusieurs centimètres, donc on est beaucoup beaucoup plus sensible.
Donc le conseil, c'est de prendre des jumelles, regarder le ciel, et là on verra Van Gogh, quoi.
On verra des couleurs pour les objets qui sont suffisamment brillants pour que notre œil puisse les détecter. Oui.
Depuis quand est-ce qu'on a compris qu'une étoile a un spectre et qu'on peut, à partir de ce spectre, dire beaucoup de choses?
C'est depuis la fin du 19e, essentiellement, quand on a commencé justement à pointer des spectrographes sur les étoiles et qu'on a vu cette distribution de lumière. C'est comme ça, par exemple, qu'on a compris qu'on allait pouvoir détecter des atomes et des molécules dans le spectre des étoiles. Comme ça que l'hélium a été détecté et inventé, entre guillemets. Dans l'hélium, il y a Hélios, le soleil.
Quand j'étais adolescent, je me souviens d'un truc que m'avait dit mon prof de physique, je pense, qui m'avait un peu perturbé. Il me disait qu'il y avait comme un paradoxe, puisque quand on regarde le ciel, il y a une infinité d'étoiles qui ont chacune envoie de la lumière et que normalement, nous devrions être totalement éblouis pendant la nuit. Ça porte un nom, non, le paradoxe de Olbers.
C'est le nom d'un physicien allemand, je crois.
Alors, comment est-ce qu'on comprend ce paradoxe?
Alors, d'abord, il n'y a pas une infinité d'étoiles. Il y en a beaucoup, 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 des très grandes quantités. En gros, il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies. Dans une galaxie, il y a une centaine de milliards d'étoiles ou quelques centaines de milliards d'étoiles. Ça fait un très grand nombre d'étoiles. Et une des raisons pour lesquelles on ne voit pas un ciel qui apparaîtrait intégralement lumineux, mais au contraire, on voit des petits points localement. En fait, c'est parce que l'univers est en expansion. C'est une des conséquences du Big Bang et du fait que l'univers est en expansion.
Parce qu'elles s'éloignent de nous, en fait.
Elles s'éloignent de nous. Elles n'ont pas toutes la même couleur, justement. Et les étoiles qui sont les plus éloignées de nous, comme elles sont décalées vers le rouge du fait de l'expansion de l'univers, on les voit pas. On n'a pas l'impression d'une couleur blanche comme ça. Et pour certaines, même, on peut même imaginer que leur spectre sorte du spectre de sensibilité de l'œil. Voilà. C'est pour ça qu'on ne voit pas toutes ces étoiles à la même distance et qu'on n'a pas l'impression d'avoir un ciel comme ça qui est...
Dis-moi, en quelques mots, le petit enfant Guy, comment est devenu intéressé par l'astronomie? Parce que tu vois, je vais te dire, moi, le petit enfant Étienne était très intéressé par l'astronomie, mais la vie ne m'a pas mené vers l'astronomie, même si aujourd'hui je ne suis que mathématicien, mais j'ai une espèce de fascination, comme beaucoup de mathématiciens, je pense, pour l'astronomie. Quelle trajectoire tu as suivi?
Moi, c'est presque exactement l'inverse. Moi, je suis devenu intéressé par l'astronomie. J'étais déjà plus un enfant, en fait. J'avais 21 ans. Donc c'est assez tardivement, et c'est par une rencontre que je n'avais pas prévue. Pendant mon service militaire, j'ai fait une école militaire. La première année, c'était le service militaire. Et j'avais un de mes camarades de promotion qui, lui, voulait devenir astronome professionnel, qui est astronome professionnel aujourd'hui, qui s'appelle Alain Le Cavalier des Étangs, qui est à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Et une de mes grand-mères m'avait offert un livre d'Hubert Reeves. Et ça a démarré, ça a initié la conversation. Et Alain m'a parlé de ce qu'il faisait en astronomie. Et puis, petit à petit, sur les 3 ans d'école, j'en suis venu à me dire que j'allais faire, dans un premier temps, une thèse en astronomie. C'est comme ça que ça a commencé, par le hasard, en fait. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé.
Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as une composante mathématique ou théorique, en tout cas, qui est importante dans ton travail?
Oui, 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 j'ai conservé cette appétence particulière. J'ai même publié un article en mathématiques appliquées l'année dernière.
Donc on dit que jadis, l'enseignement de l'astronomie et des maths étaient concomitants.
Absolument. Ah oui, oui. Il y avait, pendant longtemps, l'astronomie, c'est d'abord une astronomie de position. Et donc, on avait besoin et de la théorie physique et des mathématiques pour pouvoir faire de l'astronomie. Après, ça s'est pas rangé, si je puis dire, avec la relativité générale, avec les ondes gravitationnelles, etc., etc., ou avec la physique théorique dont on a besoin aujourd'hui pour faire de l'astronomie à très haut niveau.
Toi, tu me parlais de Huberus, qui a été peut-être au début de ton intérêt pour l'astronomie. Moi, je vais te citer un autre grand physicien astronome que j'ai lu quand j'avais 12-13 ans, que je trouvais exceptionnel, c'est Gamow, qui a écrit cette série de livres que tu connais peut-être, Monsieur Tompkins.
Oui, mais que je n'ai pas lu.
T'as pas lu Monsieur Tompkins?
Non.
Alors, Monsieur Tompkins a écrit un livre, je le connais presque par cœur, tellement il m'a impressionné, qui s'appelle 1, 2, 3, l'infini, qui est magique, qui explique à la fois des maths, de l'astronomie, les étoiles, le spectre dont tu parlais. Moi, je trouve que c'est très important qu'il y ait des gens de cette nature, que ce soit Hubert Reeves ou Gamow, qui puissent planter la petite graine chez les adolescents. Hein.
Absolument, absolument. C'est très important et c'est important que les gens découvrent et réalisent aussi l'impact scientifique, à la fois l'impact scientifique de ces matières, mais aussi les liens scientifiques entre les matières. Voilà, tu as parlé des mathématiques. En astronomie, il y a de la physique, bien entendu, il y a de la chimie, on l'espère, dans pas trop longtemps, de la biologie. Voilà. On parle d'exobiologie. Il y a l'informatique, évidemment. On parle d'intelligence artificielle. Enfin, on peut imaginer beaucoup de domaines qui se retrouvent dans l'astronomie. Et donc, c'est aussi une source de curiosité. Il faut exciter cette curiosité.
La question que je pose à tout le monde, c'est est-ce qu'une musique pourrait illustrer ton propos ou illustrer l'astronomie? Ou est-ce qu'une musique peut illustrer la couleur?
Ah, est-ce qu'une musique peut illustrer la couleur? Alors, je pense que oui. Tout à l'heure, j'ai évoqué justement la dispersion de la lumière par le prisme de Pink Floyd dans Dark Side of the Moon.
Mais c'est seulement la couverture ou bien c'est la musique par elle-même?
C'est une bonne question. J'essaie d'y réfléchir en instantané. J'arrive pas à trouver la réponse. Voilà.
Mais,
sinon, on parlait tout à l'heure de la lumière des étoiles. Il y a une chanson des Beatles, par exemple, qui est Here Comes the Sun, voilà, qui parle évidemment du lever du soleil, ou en tout cas de l'influence du soleil sur la vie d'une personne. Et le soleil et les étoiles, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de musiciens.
Très bien, alors je vais essayer de mettre de la musique lumineuse. D'accord?
Très bien.
Merci beaucoup, Guy.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.